Éco d'ici, éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour. Bonjour, bienvenue dans votre émission qui chaque semaine vous donne des clés pour mieux comprendre l'économie mondiale avec les journalistes du service économie de RFI, avec l'ensemble de la rédaction, y compris les équipes du site RFI.fr, avec celles qui gèrent nos réseaux sociaux. Vous pouvez suivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'actualité d'un monde toujours plus mouvant, toujours plus connecté. Nous donnons au quotidien la parole à celles et ceux qui agissent pour créer de la richesse, créer de l'emploi, innover. Mais cette actualité, nous la traitons aussi sans angélisme, conscient des difficultés économiques que traversent de nombreux habitants de la planète. Et c'est vrai que le premier semestre de 2022 qui vient de s'achever n'aura ressemblé à aucun autre. Conséquence d'une guerre qui aura ébranlé des marchés, des secteurs d'activité déjà déstabilisés par plusieurs chocs violents. À commencer par le secteur des matières premières, la Russie et l'Ukraine étant des leaders mondiaux de la production de céréales, beaucoup de pays dans le monde sont aujourd'hui en grande partie privés de ces importations pourtant essentielles. Une crise alimentaire est en germe. Sur fond d'inflation, les prix de l'énergie explosent. Depuis le début de l'invasion russe, nous avons consacré plusieurs émissions à cette situation totalement inédite. Avec l'aide des meilleurs spécialistes, je vous propose d'en réécouter ou d'en réécouter certains extraits. Le 26 mars, nous parlions déjà des conséquences de cette crise en Afrique, de la souveraineté alimentaire du continent. Pour savoir comment on en est arrivé là, Éco d'ici, Éco d'ailleurs recevait Karima Bounemra Bensoltan, directrice de l'IDEP, l'Institut africain de développement économique et de planification, Thierry Pouche, chef économiste aux chambres d'agriculture en France, spécialiste des questions agricoles et alimentaires, chercheur à l'université de Reims, Champagne-Ardennes. Et nous donnions d'abord la parole à Issaka Wandaogo, responsable de l'unité d'influence à Oxfam Burkina Faso. Bonjour Issaka Wandaogo.
Bonjour.
Quelle est la situation alimentaire cette année? Les problèmes s'accumulent?
Et selon les prévisions, les statistiques du ministère de l'Agriculture, en termes de production agricole, il y a une baisse d'environ 9% par rapport à la production de l'année passée et d'environ 1% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et face à cette situation, les chiffres donnent environ 2 millions de personnes qui seront en insécurité alimentaire.
C'est dû à quoi, selon vous?
C'est le changement climatique, des sécheresses que nous avons connues dans certaines localités du Burkina, mais parfois aussi des inondations. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle les défis sécuritaires et qui n'ont pas permis d'entreprendre la campagne agricole.
D'un point de vue strictement technique, qu'est-ce que vous proposez, vous, comme solution, comme changement dans le mode de production, par exemple?
Je pense qu'un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays totalement agricole, il faut d'abord compter sur notre production locale. Et là, je voudrais prendre un exemple avec la crise de 2012. On a vu les pays sahéliens, dont le Burkina Faso, ont mis le secteur agricole au centre des priorités et on a vu que la production de riz a doublé. Aussi, pour pallier le changement climatique, je pense que nous ne devrons plus laisser notre agriculture liée à la pluviométrie, mais prendre des dispositions de telle sorte qu'on peut produire à tout moment, donc mobiliser les ressources en eau et avoir des technologies qui permettent en tout cas d'échapper aux impacts du changement climatique. Et je voudrais ajouter aussi que nos autorités, de façon générale, nos chefs d'État ou nos pays, doivent respecter les engagements qu'ils prennent pour pouvoir développer le secteur agricole, à savoir il y a ce qu'on appelle l'engagement de Malabo, où ils se sont engagés à accorder au moins 10% des dépenses publiques au secteur agricole pour avoir une croissance de 6%. Malheureusement, dans beaucoup de pays, dont le nôtre, cet engagement n'est plus respecté. Et permettez-moi de prendre encore un exemple. Au moment de la révolution, nous avons tenté, j'ai dit nous, le Burkina Faso, de faire de la production du blé ici au Burkina. C'était une belle initiative, mais après, ça n'a pas continué. Je pense qu'il a manqué le soutien politique pour pouvoir continuer ces initiatives-là.
Merci. Merci à vous, Issaka Wandaogo.
Merci.
Issaka Wandaogo, responsable de programme pour l'organisation Oxfam au Burkina. Je me tourne vers vous, Thierry Pouche. On sent qu'il y a des choses qui ont été ratées et on sent qu'il y a aussi des solutions qui sont en germe.
Alors, ce qui a pu constituer d'abord la première source de l'échec, c'est que, selon moi, on n'a pas tiré les enseignements des épisodes précédents, en particulier le premier, celui qui émanait de la crise économique et financière de 2008, où on avait déjà connu une première vague de flambée des prix des matières premières, agricoles en particulier, et on avait observé et identifié des émeutes de la faim dans une quarantaine de pays. Ensuite, quelques temps après, mais toujours dans un contexte de crise, en 2011, les printemps arabes, qui évidemment sont liés directement, mais ce n'est pas une explication globale, c'est une explication partielle, mais ça a contribué le fait que les populations aient revendiqué un accès à l'alimentation et surtout avec un prix relativement abordable. Donc à partir de là, on n'a pas véritablement tiré les enseignements et il suffisait donc de se rendre compte que s'il y avait un épisode pandémique avec évidemment ce qu'on a connu depuis la fin de l'année 2019, avec les blocages, les confinements, une circulation des navires transportant des biens qui étaient un petit peu ralentis, voire même beaucoup, et maintenant donc le conflit russo-ukrainien qui, au-delà de la géopolitique au sens strict, concerne quand même deux géants de l'agriculture mondiale. On a là un cocktail assez explosif en matière de sécurité alimentaire. D'autant plus que la FAO avait, depuis 2017-2018, dans ses rapports successifs, alerté sur l'élévation de l'insécurité alimentaire dans le monde, due évidemment aux problèmes climatiques. Ça, maintenant, c'est quelque chose d'assez connu. Mais en même temps, elle soulignait bien l'impact des conflits locaux, que ce soit dans certains pays d'Afrique subsaharienne ou évidemment au Moyen-Orient, avec les cas emblématiques de la Syrie et de l'Irak. Donc on avait là quand même quelques signaux d'alerte qui auraient pu inciter les pouvoirs publics à agir, à l'échelle mondiale surtout.
Karima Bounemra Bensoltan, les alertes, effectivement, n'ont pas été suffisamment entendues, manifestement, du point de vue des stocks de céréales. On l'entend au Burkina. Vous qui suivez l'actualité économique sur tout le continent, dans quels pays africains, la situation est la plus compliquée?
En fait, la présentation qui vient d'être faite au Burkina Faso est très symptomatique de ce qui se passe dans pratiquement tout le continent. Nous ne sommes pas en train de vivre effectivement, comme il vient d'être dit, un épiphénomène, mais un énième épisode d'une suite de crises qui aurait dû alerter des pays comme l'Égypte, par exemple, qui dépend à 40% de ses importations de blé de la Russie et à 46% de l'Ukraine. Le Nigeria, 19% de sa consommation en blé vient de la Russie, et si on regarde un peu le top 5 des 5 pays qui sont les plus tributaires, je dirais, de leurs importations de Russie et d'Ukraine, nous arrivons à près de 500 millions de personnes qui risquent dans le court terme d'être impactées par ce qui est en train de se passer. Et donc effectivement, la présentation qui vient d'être faite au Burkina Faso faisait allusion aux décisions de Malabo qui elles-mêmes en 2014 ont suivi celles de Maputo en 2003. Donc en termes de, je dirais, cadre réglementaire et volonté affichée politique, il y a eu beaucoup de réflexions sur ce sujet. Mais en même temps, je dirais que les actions n'ont pas toujours suivi avec la même efficacité qu'on aurait pu prévoir. Et donc, nous avons un domaine, le secteur agricole, dont dépendent nos économies, avec 20% du PIB en moyenne sur le continent et 65% de la main-d'œuvre, qui est encore très peu, attire très peu les investissements et les intérêts. Et c'est définitivement un domaine qui doit se restructurer et qui doit prendre en compte les leçons, en fait, de décennies de crises et de conflits et d'alertes et se repenser de manière beaucoup plus efficace.
Thierry Pouche, qu'est-ce qui fait, selon vous, que certains pays sont plus vulnérables que d'autres aujourd'hui? On vient de parler de l'Égypte, du Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie aussi, enfin quelques pays du continent africain particulièrement dépendants des céréales venues d'ailleurs.
L'Égypte est un cas encore une fois emblématique puisque c'est le premier importateur mondial de blé. C'est en moyenne 11 à 12 millions de tonnes par an d'importation, avec évidemment une facture qui est très élevée par voie de conséquence, surtout lorsque le prix du blé flambe. Mais il y a de multiples facteurs. Les problèmes de dépendance relèvent à la fois des difficultés agronomiques, des difficultés climatiques. Et pourtant, l'Égypte a été dans le passé et dans l'Antiquité presque un grenier à blé. Donc il y a ces facteurs qui sont géophysiques, géo-agronomiques. Il y a aussi des décisions politiques qui peuvent être une origine de cette dépendance accrue. Le fait que cette région du Machrek et du Moyen-Orient, c'est aussi un carrefour géopolitique. Donc il y a des tensions qui peuvent aussi contribuer à la fragilité des approvisionnements. Et puis évidemment, tout cela renvoie aussi au phénomène de concurrence. Étant donné l'importance de ces demandes qui sont exprimées par ces pays-là, les pays producteurs, et ils sont assez peu nombreux, quand on regarde la carte du monde sur les producteurs et les exportateurs de céréales et de blé en particulier, c'est vraiment, comme on dit en économie, un oligopole, c'est-à-dire une poignée d'exportateurs qui peuvent répondre à la demande. Et donc, il y a une concurrence farouche, justement, pour capter cette demande. Et puis, j'ajouterai quand même un dernier point. C'est que durant les années 80, lorsque le consensus de Washington a été établi par les grandes institutions internationales, on a incité les pays africains notamment, mais pas seulement, à plutôt produire des cultures d'exportation plutôt que des cultures vivrières. Donc ça a eu un impact et on a mal mesuré les conséquences que ça pouvait avoir.
Problème structurel, effectivement, Karima Bounemra Ben Soltan, les Africains... disait Thierry Pouche, les Africains victimes de la concurrence, victimes des tensions commerciales à l'échelle de la planète.
Oui, victimes des tensions à l'échelle de la planète et puis victimes un peu de leur choix, puisque l'investissement dans la diversification ne s'est pas fait de la meilleure manière qui soit. Le secteur agricole est resté réellement très archaïque dans son approche, avec des terres très fragmentées, des très morcelées, avec une utilisation des engrais qui n'est pas optimale. Si vous regardez ce qui se passe dans, par exemple, en Afrique centrale, l'utilisation d'engrais au niveau de l'hectare et de l'ordre de 5 kilos par hectare, quand vous comparez cela, même à d'autres régions du continent, en Afrique du Nord, elle est de près de 60 kilos et en Afrique australe, près de 70. Donc, c'est une agriculture qui n'est pas compétitive, qui n'est pas aujourd'hui à même de nourrir le continent et il va falloir réellement repenser tout cela pour sortir de ces cercles vicieux qui est une dépendance systématique de ce qui se passe à l'extérieur, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la détermination des prix, parce que en plus de la diminution de l'offre, on assiste à une explosion des prix. Donc tout cela fragilise encore plus, je dirais, les budgets de nos pays. Et,
on va y revenir sur cette question des prix. Je voudrais que sur la problématique centrale, en effet, des engrais, on écoute un spécialiste. Quelques secondes, Mounir Halim, c'est le patron d'Africom, une agence d'information sur les prix qui est spécialisée sur ce marché des engrais en Afrique.
C'est une crise même plus sérieuse que celle qu'on a vécue en 2008. C'est les prix, la disponibilité et les conséquences de la disponibilité des grains. Aujourd'hui, en règle générale, une tonne d'engrais est équivalent à une production de 15 à 20 tonnes de grains, typiquement du blé ou de maïs. Alors, si on n'importe pas, et aujourd'hui on voit un manque de autour de 1 million de tonnes sur l'Afrique de l'Ouest, automatiquement, on a un manque de grains de 20 millions. Et après, le calcul est très facile. Quand on voit combien une tonne de blé coûte, le budget aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter ce 1 million de tonnes d'engrais va être multiplié par 5 ou 6 pour importer.
Thierry Pouche, cette question des engrais, pourquoi est-ce que c'est un tel problème aujourd'hui ?
Alors, ce qui vient d'être dit est tout à fait important. Il y a à la fois un problème de prix et un problème de disponibilité. Quand on sait que la Russie est un grand acteur sur le marché gazier et qu'avec ce gaz, on fait des engrais azotés, et qu'il représente à peu près 16% du marché mondial des engrais, effectivement, dans le conflit actuel, il peut y avoir à la fois des répercussions sur du conflit lui-même, mais aussi la stratégie de la Russie de raréfier volontairement les disponibilités à l'exportation, parce que la Russie considère que tous les pays qui soutiennent l'Ukraine sont considérés comme des co-belligérants. Alors après, historiquement, effectivement, dans certaines régions, on utilise plus d'engrais et dans d'autres moins. La comparaison est toujours difficile, mais par rapport à l'Union européenne, par exemple, hein, où on utilise quand même jusqu'à présent pas mal d'engrais, même si on veut en sortir, ça relevait d'un cadre général de politique agricole, c'est-à-dire d'une perspective de moderniser les structures de production et d'élever les rendements de façon à atteindre l'autosuffisance. En Afrique, évidemment, c'est très contrasté, mais le fait qu'il y ait un manque de politique agricole, un manque de soutien des agriculteurs et une difficulté à investir et à moderniser les structures se traduit par effectivement un usage relativement modeste des engrais.
C'est une des erreurs, Karima Bounemra, Ben Soltan, ne pas avoir misé suffisamment sur la productivité, sur l'agriculture intensive et donc sur les engrais ?
C'est peut-être l'une des erreurs, même si aujourd'hui ce langage n'est peut-être pas très bienvenu lorsque on parle d'agriculture qui est
respectueuse de l'environnement.
Et oui. Absolument, tout à fait. L'agriculture intensive était une solution qui avait été considérée à un moment, surtout pour arriver d'abord à regrouper des terres qui sont très morcelées, faire coopérer des petits fermiers qui sont aujourd'hui la majorité du panorama agricole dans le continent. Mais bien évidemment, à un moment donné, ça a été la solution. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins avec la volonté d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Donc, les engrais sont une solution, mais d'autres solutions aujourd'hui existent pour rebondir et faire de ce secteur un secteur beaucoup plus performant. Aujourd'hui, nous réfléchissons beaucoup sur l'utilisation des nouvelles technologies, sur un travail de coopération entre les différentes sources de production entre elles pour fédérer leur production, travailler ensemble, créer des chaînes de valeur, travailler sur la transformation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de solutions. Il y a toute une panoplie de solutions. Mais les engrais, je dirais, ça n'est pas forcément une erreur. Ça a été une solution à un moment donné.
Les agriculteurs au cœur du problème. On va se rendre au Maghreb, en Tunisie précisément, pays que vous connaissez bien, Karima Bounemra Ben Soltan. Notre correspondante Amira Souilem a rencontré un exploitant qui a du mal à s'approvisionner en alimentation animale pour son bétail. Il est inquiet pour les mois à venir. Son reportage.
Dans cette ferme située à une heure de Tunis, le comité d'accueil est nombreux et très expansif. 300 brebis tapageuses, mais surtout de plus en plus coûteuses. Depuis la guerre en Ukraine, le prix de leur alimentation a flambé. Shiheb Weli, 34 ans, est à la tête de cette exploitation. Ingénieur agronome, il avait conscience que la santé de sa ferme était tributaire de la marche du monde et s'y était préparé.
Il ne fallait pas attendre une guerre pour comprendre qu'on est dépendant de l'étranger dans notre alimentation humaine et animale. Donc on est obligé de changer nos méthodes. Tous les prix ont augmenté, les céréales, le carburant.
Lui qui souhaitait depuis des années réduire sa dépendance aux cours mondiaux a consacré une parcelle de ses 400 hectares à l'expérimentation.
On a fait des essais ici d'un foin mélangé entre du triticale et de la veste pour pouvoir faire un foin beaucoup plus riche en protéines pour diminuer nos achats. Nous, on l'utilise depuis 4-5 ans. On voit que nos achats de protéines ont diminué. J'espère que d'autres agriculteurs vont être convaincus par cette méthode.
Nourrir les bêtes avec des protéines locales plutôt qu'importées. Un choix qui protège Shiheb en pleine tourmente internationale. En plus des fourrages animaux, le jeune homme cultive aussi du blé.
Voilà, le blé dur va servir à faire des pâtes.
Surnommé grenier à blé de Rome dans l'Antiquité, la Tunisie moderne a ensuite délaissé cette culture pour se tourner vers une agriculture dédiée à l'exportation. Oranges, dattes, huile d'olive rapportent des devises au pays. Lesquelles devises servent ensuite à acheter du blé sur les marchés mondiaux. Alors que les cours explosent, il est urgent de revoir cette stratégie. Pour Shiheb, la sécurité alimentaire passe par les producteurs locaux. comme lui.
Moi, à mon échelle, je peux produire le double de ce que je suis en train de produire.
Alors que les besoins en blé sont de plus en plus urgents, et faute d'incitation à en produire localement, la surface dédiée au blé dur aurait été diminuée du tiers ces 5 dernières années en Tunisie, selon Chieb. Amira Suilem, de retour de Menzel Bourguib, RFI.
Thierry Pouche, ces solutions alternatives, la diversification des cultures, est-ce que les pays africains sont trop concentrés sur telle ou telle culture et sont donc trop soumis aux importations sur d'autres ?
Ah, sans doute, c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure l'impact qu'il faudrait quand même souligner de plus en plus, l'impact des programmes internationaux qui ont poussé les agricultures africaines à se spécialiser sur des cultures d'exportation au détriment de cultures vivrières. L'intensification, ça a été dit, était peut-être une solution à un moment donné, mais il y a aujourd'hui effectivement le recours aux nouvelles technologies. Les engrais ne sont pas forcément non plus que des engrais chimiques. Il peut y avoir des engrais organiques qui peuvent être utilisés. Il y a aussi une question de dosage, mais je crois que avant d'en arriver là, si vous voulez, il y a toute une politique agricole qu'il faut mettre en place, une politique d'investissement qui consiste à orienter les structures de production et orienter les agriculteurs vers des buts déterminés, et en particulier nourrir d'abord la population. Et par voie de conséquence, il faut aussi avoir à l'esprit qu'on peut adapter un système de prix rémunérateur. Parce que si...
L'État doit intervenir davantage.
Voilà. Alors, en économie, si vous voulez, c'est toujours le vieux débat, mais l'expérience, la première grande expérience d'intervention de l'État qui a conduit à sauver l'agriculture d'une crise profonde, les États-Unis en sont l'exemple emblématique. Dans les années 30, lorsque l'agriculture américaine s'est effondrée sous le poids du choc de la Grande Dépression, l'État est tout de suite intervenu à partir de 1933, a pris des mesures, et on sait ce que ça a donné, puisque non seulement la politique agricole américaine a une longévité absolument remarquable et stupéfiante, elle existe toujours aujourd'hui, son esprit est toujours là. C'est même d'une certaine façon très paradoxal pour les États-Unis, le pays de la libre entreprise. Il y a un plan quinquennal pour l'agriculture. Tous les 5 ans, on vote une loi agricole. Et donc peut-être qu'il y a des sources d'inspiration comme ça pour l'Afrique qui permettraient d'augmenter la production et les rendements, et éventuellement de caresser cette ambition d'une autosuffisance. Mais j'ajoute aussi que d'une certaine façon, certains pays africains auraient peut-être la possibilité d'organiser leur agriculture autour d'une politique un peu commune, de façon à avoir une répartition des productions, avoir des soutiens qui soient un peu partagés en termes de financement. Donc il y a de multiples pistes qui peuvent permettre à l'Afrique de se sortir de cette ornière de la dépendance.
Vous êtes d'accord avec ça, Karima Bounemra Ben Soltan? Il faut que l'État soit plus interventionniste en Afrique, il faut fixer les prix, subventionner davantage, quitte à creuser dans les budgets.
Tout à fait, et je pense que les 2 années que nous venons de vivre sont une illustration de cette nécessité. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'utilisation des investissements, la direction, l'orientation des investissements, l'agriculture n'a pas été au cours des 2 dernières années. Et à juste titre, l'une des priorités dans les agendas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas continuer à panser des plaies en ce qui concerne l'agriculture et à trouver des solutions de court terme lorsqu'une sécheresse arrive, lorsqu'une épidémie arrive, lorsqu'une inondation arrive. Il est important, au-delà des actions à court terme qui sont bien évidemment nécessaires, qu'il y ait cette vision commune. Et cette vision commune, il y a, je dirais, le substrat pour elle. Il y a un certain nombre de cadres qui ont été votés et qui sont suivis aujourd'hui, mais je pense qu'il faut passer à une action beaucoup plus affirmée et une intervention beaucoup plus importante. Et c'est vraiment nécessaire et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Céréales, engrais, énergie, comment éviter une famine en Afrique? C'était notre émission du 26 mars dernier avec Karima Bounemra Ben Soltan, directrice de l'Institut africain de développement économique de planification. Elle était en ligne de Dakar. Thierry Pouche, chef économiste aux chambres d'agriculture en France, auteur d'un ouvrage « La pandémie et l'agriculture, un virus accélérateur de mutation » aux éditions France Agricole.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Brunet Faure.
He is the big brain with greater ambition. Ooh. Techno king billionaire, he's on a mission. Yeah, PayPal, Tesla, Neuralink and Top. Open AI, SpaceX, this man can't be stopped. Woo.
On continue de parler de cette crise alimentaire et énergétique dans quelques instants. Avant cela, parmi les grands moments de ce début d'année 2022 sur la planète économie, au mois d'avril, l'annonce d'Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, annonce du rachat de Twitter. Nous lui avions consacré une émission, Elon Musk, un modèle économique en question, et nous avions diffusé ce reportage à Pretoria en Afrique du Sud, dans le lycée où l'homme le plus riche du monde, aujourd'hui, a passé une partie de ses études. Que pensent les nouvelles générations d'étudiants de sa réussite? Sont-ils inspirés par son parcours? Reportage du correspondant de RFI, Romain Chanson.
Superbe bâtiment en pierre, bibliothèque en bois et fontaine, le lycée pour garçons de Pretoria est un établissement traditionnel où les élèves étudient en costume, comme le faisait Elon Musk une trentaine d'années avant eux. Son parcours fascine Joshua Leroux, 18 ans, qui a dévoré sa biographie.
He's got such a vision. C'est
un visionnaire, il est passionné, peu importe le domaine dans lequel il s'investit. Que ce soit Twitter, SpaceX, Tesla, il en fait quelque chose de super, voire d'inédit, grâce à son esprit créatif.
Plus de 40 milliards de dollars dépensés pour acheter Twitter. Était-ce bien raisonnable? Ross Gilson, 17 ans, ne remet pas en question les investissements d'Elon Musk.
Peu importe ce qu'il fait, il peut le transformer en succès. Je ne fais pas vraiment attention au côté sensationnel de l'actualité autour d'Elon Musk. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est son industrie automobile. Lui et moi, on partage la même passion pour ce secteur.
Chez ces adolescents qui terminent le lycée, le côté science-fiction d'Elon Musk les séduit, comme Adedamola Youssouf, 17 ans.
He really wants to see us exploring space.
Il veut vraiment que l'on explore l'espace. Il veut voir des colonies sur Mars. Et pour tout vous dire, j'adhère complètement à cette vision. C'est peut-être de la pure naïveté ou c'est parce que je suis encore un gamin et que j'ai beaucoup d'imagination. Mais je suis très enthousiaste à l'idée d'un tel futur. C'est palpitant.
À l'autre bout de la table, leur professeur d'histoire et principal du lycée les écoute attentivement. John Hilsney attend la fin pour prendre la parole et pour nuancer le portrait flatteur que ses élèves dressent d'Elon Musk.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on finisse par admirer quelqu'un pour sa fortune plutôt que pour les valeurs qu'il incarne. Concernant Twitter, je ne comprends pas l'intérêt de dépenser des milliards pour ça. J'imagine qu'il existe de bien meilleures façons d'investir son argent. Je ne pense pas qu'il soit très attaché à l'Afrique du Sud et pourtant j'estime que quand on se fait autant d'argent, il y a comme une obligation morale de regarder d'où on vient.
John Hilsney souhaiterait qu'Elon Musk vienne passer au moins une journée dans son ancienne école. Ce serait pour lui une manière de reprendre racine, estime-t-il.
Reportage de Romain Chanson, notre correspondant en Afrique du Sud. Elon Musk, un modèle économique en question, émission diffusée le 7 mai dernier, à retrouver sur notre site RFI.fr et sur notre compte Facebook RFI Echo. Retour à notre dossier du jour, la crise alimentaire et énergétique, en l'occurrence au Maghreb et dans le monde arabe, de la Mauritanie à l'Irak en passant par le Maroc, l'Algérie, la Libye, le Liban ou les pays du Golfe Persique. C'était notre émission du 16 avril dernier, en plein Ramadan, moment où les dépenses alimentaires sont les plus importantes. Et Codici et Codailleurs recevait Alexandre Kateb, économiste spécialiste des marchés émergents, professeur à Sciences Po Paris, fondateur de la société de conseil stratégique The Multipolarity Report, auteur de l'ouvrage « Les économies arabes en mouvement, un nouveau modèle de développement pour la région MENA » aux éditions De Bock.
Alors, la situation est complexe, il ne faut pas se le cacher, avec la flambée des prix alimentaires, évidemment liée à cette crise, mais qui a commencé avant le conflit en Ukraine, hein, puisqu'on a vu une flambée des prix des céréales, notamment depuis 2020-2021. Et aujourd'hui, ça s'intensifie. Alors, est-ce qu'il faut craindre une répétition des printemps arabes de 2011 ? C'est pas forcément, la situation n'est pas forcément la même, dans le sens où les États ont intégré d'une certaine manière certaines des leçons et savent très bien quelle est la sensibilité des populations sur certaines questions, notamment sur l'alimentation. Et donc les pays qui peuvent se le permettre ont pris les devants et ont constitué des réserves. C'est notamment le cas de l'Égypte, par exemple, qui a plusieurs mois de réserves alimentaires.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. D'autres pays sont beaucoup plus dépendants de l'aide extérieure. C'est le cas notamment de la Tunisie ou du Liban. Mais la situation, en fait, est vraiment à examiner au cas par cas.
Eh bien, justement, allons au Liban, allons sur le terrain. Ce pays déjà confronté à d'immenses difficultés économiques aggravées par cette guerre en Ukraine, avec un témoignage. Nabil Fahed, c'est le patron de deux supermarchés à Zalka, près de Beyrouth. C'est une entreprise familiale. Il dirige aussi le syndicat des propriétaires de supermarchés du Liban. Nicolas Falaise l'a rencontré lors de l'un de ses reportages pour RFI.
We are in an area of the store that used to be full of products.
Nous sommes à un étage de ce magasin où d'habitude les rayons étaient pleins. Il y avait le rayon bébé ici, le rayon jouet, le rayon pour les femmes. Tout est fermé désormais. Nous y entreposons des sacs de nourriture. Ce sont des dons qui seront distribués aux plus pauvres. D'un vrai commerce, nous sommes passés à un centre de dons pour les familles dans le besoin.
Packing food items for needy families.
Quand avez-vous dû fermer cet étage et à quel moment vous vous êtes dit c'est le moment de le fermer?
We have tried very hard to keep going.
Nous avons vraiment essayé de le maintenir, mais comme nous n'avons plus les fonds nécessaires à cause de la dévaluation de la monnaie, nous perdons notre capacité à nous achalander. Et puis bien sûr, les clients n'achètent plus, ils n'ont plus le pouvoir d'achat nécessaire. Donc il y a environ un an, nous avons décidé de fermer cet étage qui représentait environ 20% de notre surface de vente. Nous éteignons nos escaliers roulants et nos ascenseurs pour économiser de l'électricité. Nous n'allumons plus que la moitié de l'éclairage car il n'y a pas de clients. Donc quand des clients arrivent, nous allumons la lumière et nous la réduisons lorsqu'ils s'en vont. Nous produisons notre propre électricité avec un générateur et cela se paie cash en dollars. Donc c'est très coûteux pour nous.
So that's very expensive for us.
Depuis des dizaines d'années que votre famille possède ces supermarchés, vous n'êtes pas habitué à les voir aussi vides?
Pas du tout. We are used to having,
nous étions habitués à recevoir des milliers de clients. Dans ce magasin, la fréquentation moyenne était de 5000 clients par jour. Maintenant, c'est à peine 500 par jour, 10 fois moins.
10% of what it used to be.
Quel impact sur vos salariés, vos équipes?
We had to cut our workforce by half almost.
Nous avons dû réduire nos effectifs de moitié, pas parce que nous le voulions, mais parce que certains ont dû quitter le pays ou ont changé d'employeur. Parce qu'il y a des secteurs qui payent bien mieux que celui des supermarchés. Les compagnies libanaises qui exportent ont les moyens d'offrir de meilleurs salaires. Donc nous avons perdu certains de nos employés comme ça. Et d'autres ont quitté le Liban pour aller travailler dans les pays du Golfe ou en Afrique.
Some of the employees who left the country to go work either in the Arab Gulf countries or in Africa.
Combien d'employés aujourd'hui dans vos différents supermarchés?
On avait 400 employés, maintenant c'est à peu près 200 employés.
Nabil Fahed, patron des supermarchés Fahed Super Value près de Beyrouth, au micro de Nicolas Falaise. Alexandre Kateb, tout est réuni ici. L'inflation, les problèmes monétaires, énergétiques, les salariés qui cherchent un autre avenir ailleurs. C'est aussi le royaume de la débrouille. Pour le Liban, cette guerre en Ukraine est un coup de massue.
C'est un choc supplémentaire en fait qui s'ajoute à tout ce que le pays a connu auparavant, à cette crise qui s'est déclenchée il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, l'économie libanaise s'est complètement effondrée, la monnaie s'est effondrée. On peut même dire que l'État s'est effondré d'une certaine manière. Évidemment, tous les ingrédients sont là pour un appauvrissement généralisé de la population.
Avec en plus des Libanais qui partent à l'étranger. Donc les forces vives quittent le Liban.
Tout à fait, oui. Encore plus qu'avant, hein, puisque ça a toujours été un pays qui a exporté ses élites. Et en retour, ces élites dans la diaspora finançaient finalement l'économie du pays à travers le capitaux, mais ce modèle s'est effondré et le Liban a perdu aussi beaucoup de soutien, notamment des pays du Golfe, hein, de l'Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe, à cause de problèmes et de disputes géopolitiques. Et donc aujourd'hui, en effet, la seule porte de sortie, c'est l'émigration. Hein,
donc beaucoup de Libanais en Irak, beaucoup en Afrique aussi, on le sait.
Oui, tout à fait. Ou d'ailleurs, ils réussissent très bien. Parce que c'est un peuple entreprenant, ce sont des gens qui sont très bien formés, qui parlent plusieurs langues et qui s'adaptent parfaitement dans différents environnements, y compris dans les environnements les plus hostiles. Mais le paradoxe, c'est que au sein même du Liban, ils n'arrivent pas à faire fonctionner cette machine qui est grippée aujourd'hui et qui a du mal à repartir sans l'aide des bailleurs de fonds internationaux, notamment du FMI.
On franchit le canal de Suez, une autre réalité presque tout aussi préoccupante. L'Égypte, en proie à une très forte inflation, elle a triplé en un an. Bonjour Alexandre Bouchianti.
Oui, bonjour.
Notre correspondant au Caire, situation malgré tout très diverse selon les produits en termes d'inflation.
Oui, tout à fait. Le riz, l'huile, le sucre, les fruits et légumes ont augmenté de près de 25% en moyenne. Et c'est un coup dur, surtout que près d'un tiers des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis, il y a l'électroménager, tout ce qui est importé, qui a augmenté de plus de 30%, parfois même 50%. Et il y a des commerçants qui s'abstiennent parfois de vendre. Mais il y a trois produits essentiels qui n'ont pas augmenté. Le pain subventionné, le carburant et l'électricité, du moins pour le moment.
Les subventions, c'est une chose en effet. Alexandre, il y a aussi l'action des autorités financières dirigées dans cette lutte contre l'inflation.
Oui, et une inflation d'ailleurs qui avait commencé en fait avec le Covid et puis qui s'est emballée avec la guerre en Ukraine. Alors, pour tenter de freiner cette hausse des prix, la Banque centrale a augmenté ses taux directeurs de 1%. On est donc passé à 9,25 pour les dépôts et 10,25 pour les emprunts. Mais mieux encore, deux banques publiques ont émis des bons à 18% et ont ainsi récolté l'équivalent de 20 milliards d'euros. La livre égyptienne, pour sa part, a été dévaluée de 16%. Et des priorités ont été établies pour l'obtention de devises étrangères. Il y a d'abord les produits essentiels, comme les aliments et les outils de production. Et en fin de liste, il y a les produits de luxe. Mais les experts estiment que la Banque centrale sera obligée d'augmenter encore ses taux directeurs entre 1 et 2% le mois prochain.
Merci Alexandre Bouchianti au Caire. Alexandre Kateb, les banques centrales de la région ont-elles les cartes en main, ont-elles des marges de manœuvre ?
Les banques centrales de la région, en fait, sont un petit peu liées par un certain nombre d'accords internationaux, hein, puisque ces banques centrales doivent préserver la valeur de leur monnaie quand elles le peuvent, hein, vis-à-vis de monnaies fortes comme le dollar ou l'euro. Et donc, elles sont obligées, finalement, de resserrer les vis dès qu'il y a un peu d'inflation, pour garder la valeur de la monnaie. Quand elles ne le peuvent pas, elles procèdent à des dépréciations, à des dévaluations. Hein. C'est ce qu'on constate en Égypte, par exemple. Si cela est fait de manière ordonnée, ça n'a pas un impact trop négatif. Il y a une adaptation qui se fait de la part des entreprises et des ménages. Mais si c'est quelque chose qui est brutal, capital et qui survient du jour au lendemain, évidemment, l'impact sur l'inflation, il est très dommageable, notamment sur les prix des produits de première nécessité, hors ceux qui sont subventionnés et dont les prix ne bougent pas.
Là encore, un problème de dépendance. On parlait tout à l'heure de la dépendance aux matières premières. Là, c'est une dépendance monétaire par rapport au dollar, par rapport à l'euro.
C'est une dépendance monétaire qui s'ajoute à la dépendance alimentaire et à d'autres dépendances, qui traduit surtout en fait la fragilité intrinsèque de ces économies qui, dans le tissu productif, n'est pas suffisamment puissant pour produire tous les biens qui sont consommés par la population, qui sont très dépendants des importations en provenance de l'étranger pour satisfaire le marché local.
Est-ce que, comme d'autres, les économies arabes vont se tourner vers le yuan chinois ou vers d'autres monnaies encore ?
Le yuan chinois, c'est une option parmi d'autres, hein, sachant que c'est une monnaie aujourd'hui qui n'est pas totalement convertible, donc qui n'a pas le même statut que le dollar ou l'euro, par exemple. On ne peut pas l'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt les banques centrales qui ajoutent du yuan à leurs réserves pour faciliter leurs relations avec la Chine dans le cadre de leurs importations et de leurs exportations avec ce pays. Mais le yuan, aujourd'hui, n'a pas la capacité de se substituer au dollar ou à l'euro comme la monnaie d'ancrage principale de ces économies.
Une monnaie régionale, une livre MENA?
Pour cela, il faudrait qu'il y ait déjà un accord au sein de cette région et on en est loin. On peut simplement voir ce qui se passe dans les pays du Golfe qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une monnaie unique alors même que la plupart de leurs économies sont très similaires et que leurs monnaies sont de facto ou de jure liées au dollar. Et donc, elles auraient pu très bien s'entendre pour mettre en place une monnaie unique qui aurait pu déjà servir, on va dire, d'amorce d'une monnaie régionale éventuelle.
Avec des richesses, des ressources naturelles, l'économiste Alexandre Kateb est avec nous dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, pour parler du monde arabe face à la guerre en Ukraine et des questions énergétiques en particulier. On écoute les propos de Mario Draghi en mission d'urgence à Alger, le premier ministre italien aux côtés de son homologue algérien.
Nos gouvernements ont signé une déclaration d'intention sur la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie. S'ajoute à cela un accord entre Eni et Sonatrach pour augmenter l'exportation de gaz vers l'Italie. L'Italie est prête à travailler avec l'Algérie pour développer les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. Tout de suite après l'invasion de l'Ukraine, j'avais annoncé que l'Italie agirait rapidement pour réduire sa dépendance au gaz russe. Les accords d'aujourd'hui sont une réponse significative à cet objectif stratégique.
Gli accordi di oggi sono una risposta significativa a questo obiettivo strategico.
Le gaz algérien, tout le monde en veut.
Oui, tout le monde en veut et les premiers à en vouloir, c'est les Algériens eux-mêmes. Et c'est là, en fait, que réside le problème parce que la consommation intérieure de gaz a augmenté de 7% en moyenne chaque année depuis 20 ans. Et à ce rythme, dans 10 ans, il n'y aura plus de gaz à exporter si on n'investit pas de manière massive dans de nouveaux gisements, que ce soit des gisements conventionnels ou dans le gaz de schiste, qui reste un sujet tabou pour une partie des élites et de la population algérienne, mais qui néanmoins constitue une opportunité pour le pays pour redevenir une puissance énergétique de premier plan.
Jusque-là, l'Algérie, premier exportateur de gaz naturel africain, 7e dans le monde, c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien, mais on est dans une situation où on assiste plutôt à un déclin de la production, à un vieillissement des gisements historiques, notamment le gisement de Hassi-Rmel, qui en fait produit la grande partie des exportations qui sont dirigées vers l'Europe et même de tout simplement qui sont consommées sur place aussi. Et le problème, c'est l'investissement. Et donc, Donc là, on voit qu'il y a effectivement une valse des dirigeants européens et dans leur sillage des grandes compagnies pétrolières et gazières européennes pour reprendre pied en Algérie. Après des années où finalement ce marché qui était jugé difficile avait été négligé, voire boudé par certaines compagnies hein, que je ne citerai pas. Mais aujourd'hui, la situation a changé et on s'aperçoit que finalement, pour diversifier les risques et réduire la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe, l'Algérie finalement redevient fréquentable et redevient un partenaire intéressant.
Rapidement, le pétrole très cher, c'est bon pour l'Algérie, c'est bon pour la Libye?
Oui, le pétrole très cher, effectivement, c'est bon pour les deux pays. L'Algérie est un exportateur relativement mineur de pétrole, hein, avec une capacité d'exportation de l'ordre de 1 million de barils par jour. Donc on est très loin, par exemple, de l'Arabie Saoudite ou même des Émirats, de l'Irak et d'autres pays de l'OPEP. La Libye a une capacité d'exportation plus significative qui demande à être débloquée. Et là, il s'agit de surmonter évidemment les problèmes politiques qui opposent les deux camps qui se partagent le pouvoir en Libye.
Un autre voisin de l'Algérie, c'est le Maroc, en conflit diplomatique. Le Maroc a aussi besoin de gaz et qui, du coup, est obligé de passer par l'Espagne.
Oui, c'est un gâchis de voir que les relations entre les deux pays se sont envenimées au point où ça touche la coopération économique et énergétique, hein, ce qui n'avait pas été le cas lors des brouilles précédentes. Hein. Là, on a atteint un niveau supplémentaire de tension. J'espère que là aussi, la raison finira par l'emporter et que les intérêts bien compris des deux pays vont plaider pour une renormalisation de ces relations et pour une coopération accrue dans un secteur aussi prometteur.
Le Maroc qui bénéficie d'un bon environnement des affaires, le Maroc plutôt bien intégré, y compris dans la zone économique africaine.
Le Maroc a son ouverture sur l'Afrique, en effet, et ça s'est concrétisé avec des investissements des entreprises marocaines vers cette zone depuis plusieurs années. Néanmoins, le Maroc est isolé au sein du Maghreb et son partenaire naturel, c'est l'Algérie au sein de cette zone. Et donc, c'est vrai que l'économie marocaine se portera d'autant mieux que les relations avec l'Algérie seront beaucoup plus productives.
Le monde arabe en ordre dispersé face à la crise mondiale, c'était le 16 avril dernier dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec l'économiste Alexandre Kateb. Et il va sans dire que nous continuerons de parler de ce sujet primordial dans les mois qui viennent, des questions agricoles plus globalement, l'agriculture indispensable pour réussir la transition énergétique et environnementale. Les conséquences de la guerre en Ukraine, cette fois sur le secteur privé, ce sera la semaine prochaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, nos rediffusions de l'été, les entreprises étrangères quittent la Russie. Merci à tous. Abonnez-vous à notre page Facebook RFI Echo et à notre compte Twitter RFI Echo également pour suivre au quotidien l'actualité économique dans le monde. Bonne journée, bonne soirée sur RFI. Portez-vous bien.